Bonjour Dorothée, bonjour à tous. Au sommaire aujourd'hui, il y a bel et bien une petite menace sur les résultats du bac. Les correcteurs grévistes avaient jusqu'à hier pour remettre leurs notes, délai reporté à cet après-midi. Et Jean-Michel Blanquer le reconnaît, certains élèves pourraient ne pas avoir leurs résultats après-demain. Un centre de détention de migrants bombardé en Libye. Le bilan est extrêmement lourd, 44 morts selon l'ONU. Épisode de la guerre civile dans le pays, nous expliquera Christian Chesneau. Le couple Macron-Merkel retrouve des couleurs. Après l'accord sur les plus hauts postes en Europe, une Allemande à la tête de la Commission, une Française, Christine Lagarde, à la Banque Centrale. Nous allons à Bruxelles, mais attention, l'Allemande Ursula von der Leyen doit encore être confirmée par le Parlement européen et les sociaux-démocrates renâclent. Qui sera le candidat En Marche à la mairie de Paris? Réponse dans une semaine, c'est la toute fin de la campagne interne. L'un des candidats, Cédric Villani, est l'invité du journal de 13h. Dans ce journal encore, Google va-t-il tenir son pari de diffuser Internet dans les pays pauvres grâce à un réseau de ballons dans le ciel? Nouvelle étape du projet au Kenya. 320-350 000 euros pour un traitement anticancéreux innovant. Le prix est-il délirant? Médecins du Monde lance le débat. La maîtrise, les chanteurs de Notre-Dame appellent à l'aide. Eux aussi ont perdu beaucoup depuis l'incendie.
On a perdu un lieu, on a aussi perdu des instruments puisqu'on a perdu un piano à queue qui était dans les sous-sols. On a perdu nos aubes, on a perdu des partitions. Il y a eu un énorme engouement du monde entier pour cette pauvre cathédrale qui s'effondrait. Mais tous les dons sont a priori attribués à la restauration des pierres.
Et ils ont perdu un lieu de répétition et de concert. D'autres détails tout à l'heure. Nous parlerons également dans ce journal de la visite d'Edouard Philippe en Corse, de la demi-finale de la Coupe du Monde de football. Suède-Pays-Bas, les États-Unis sont en finale et du conseil cinéma de la semaine So Long My Son. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti. Les professeurs correcteurs de copie au bac qui font de la rétention ont gagné un petit combat. Ils perturbent au moins légèrement le baccalauréat cette année. Ils avaient jusqu'à hier pour remettre leurs notes, délai reporté à cet après-midi dans certaines académies. Et le ministre Jean-Michel Blanquer le reconnaît, il y a un risque que certains candidats n'aient pas leurs résultats du bac vendredi. C'est pour protester contre la réforme du lycée et du baccalauréat que ces professeurs se rebellent. Parmi les académies où ils sont relativement nombreux, il y a celle de Toulouse. Assemblée générale ce matin à la Bourse du Travail. Reportage Stéphane Iglesis.
La grève des enseignants a été reconduite jusqu'à demain par la grosse centaine de profs présents à l'Assemblée Générale. Ils ont tous reçu deux mails du rectorat, dont le dernier ce matin, dans lequel la rectrice rappelle que les enseignants doivent impérativement restituer l'ensemble des copies, qu'elles soient corrigées ou non. François, prof d'histoire géo, précise comme tous les présents que les copies sont corrigées.
J'ai corrigé en temps et en heure. Elles sont sur mon bureau, j'ai rempli des bordereaux et voilà, elles sont en attente.
La veille de la date butoir, j'ai saisi, alors pas trois notes, en fait j'avais trois absents sur mon tas de copies à corriger et j'ai saisi les trois absences.
Quant à Julien, prof de philo, il insiste, c'est un mouvement inédit.
Bien sûr, elles sont corrigées, le travail a été fait, il a été fait consciencieusement, croyez-moi. Nous conservons simplement les notes, nous voulons que les rectorats reconvoquent des jurys, les jurys de délibération n'auront pas lieu demain et que le ministère prenne enfin ses responsabilités.
Christophe Manimal du SNES pense que certains jurys, comme l'a reconnu Jean-Michel Blanquer, pourraient être décalés pour ce bac.
S'il y a du retard dans les résultats du baccalauréat, nous sommes désolés pour les élèves qui sont directement concernés, mais on estime que 3, 4, voire 5 jours de retard à côté de ce que les générations futures vont perdre du fait de ces réformes, ce n'est rien du tout.
Enfin, des profs grévistes envisagent d'aller collectivement remettre leurs copies corrigées vendredi au rectorat au lieu de les restituer dans leur jury. Toulouse, Stéphanie Iglesis, France Inter.
La Fédération de parents d'élèves PEP dénonce cette menace de rétention de notes. Inacceptable de faire peser une telle menace sur les élèves. Quant au ministère, il menace de considérer comme grévistes depuis la récupération des copies tous ces professeurs, ce qui ferait 15 jours de grève. Un bateau de fortune, il y avait 12 migrants à bord, dont 6 enfants. Ils tentaient de traverser la Manche. La petite embarcation s'est échouée sur une plage d'Ambleteuse ce matin dans le Pas-de-Calais. Les 12 ont été secourus. D'autres migrants en Libye, ils étaient dans un centre de détention à Tripoli. Un bombardement. Bonjour Christian Chesneau.
Bonjour.
Le bilan est effroyable. 44 morts selon l'ONU, plus de 130 blessés.
Est-ce une bavure ou un acte délibéré? En tout cas, le gouvernement d'Union Nationale, le GNA de Fayez Sarraj, a condamné ce carnage qu'il a imputé au criminel de guerre Khalifa Haftar selon un communiqué. L'émissaire de l'ONU, Hassan Salamé, vient de dénoncer un possible crime de guerre. Le maréchal Haftar, qui tente de prendre Tripoli, a nié que ses troupes aient pu viser le centre de détention de migrants de Tadjoura. Ce centre qui accueille 600 personnes selon le HCR se situe à proximité de plusieurs casernes où sont stationnées des forces alliées au GNA qui sont la cible de frappes aériennes depuis plusieurs semaines. Bref, les migrants tués dans le bombardement apparaissent comme les victimes collatérales de la guerre civile libyenne pris entre deux feux d'un conflit qui les dépasse. Depuis avril dernier, les troupes du maréchal Haftar ont lancé une grande offensive pour prendre le contrôle de Tripoli. Alors, ce bombardement de migrants va-t-il entraîner une pause dans les combats ? Le maréchal Haftar répète que son objectif reste la prise de Tripoli pour réunifier la Libye.
Et en effet, l'émissaire de l'ONU qui à l'instant parle de possibles crimes de guerre après ce bombardement. En Syrie, à Raqqa, une fosse commune vient d'être découverte. 200 corps. Raqqa, un temps, avait été capitale du califat, entre guillemets, de l'organisation État islamique. Quelle était l'activité exacte du sous-marin russe qui a pris feu dans le Grand Nord ? 14 marins ont péri. Sous-marin de recherche ou sous-marin nucléaire destiné à mener des opérations spéciales type sabotage ? Eh bien, les informations détaillées sur cet incendie ne seront pas rendues publiques, dit-on à Moscou, au moins c'est clair. Il était régulièrement question ces derniers mois d'une perte d'influence d'Angela Merkel en Europe, d'un Emmanuel Macron relativement isolé et d'un couple franco-allemand en froid. Eh bien, la chancelière et le président ont plutôt réussi leur coup hier dans les négociations sur les plus hauts postes européens. Une Allemande proche de Madame Merkel doit prendre la tête de la Commission, la ministre de la Défense Ursula von der Leyen, et une Française vers la présidence de la Banque Centrale Européenne, l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy et patronne du FMI, Christine Lagarde. Bonjour Angélique Boin.
Bonjour.
Angélique, correspondante de France Inter à Bruxelles, c'est plutôt une victoire hein, pour Emmanuel Macron et Angela Merkel.
Oui, le couple retrouve en effet des couleurs et relance l'image de ce moteur franco-allemand incontournable pour faire avancer l'Europe. Autre motif de satisfaction pour Emmanuel Macron en particulier, en écartant la candidature de Manfred Weber pour la Commission, il tue le système dit du Spitzenkandidat dont il ne voulait pas. Ursula von der Leyen est certes de droite, famille politique arrivée en tête des élections, mais c'est une modérée. C'est aussi une femme, plusieurs fois ministre, quasi inconnue à Bruxelles. Parité, expérience, renouvellement étaient en tête des exigences du président français. Dans ce mercato, il place par ailleurs une Française, Christine Lagarde, à la BCE, et un très proche, le Belge Charles Michel, au Conseil européen. Enfin, les quatre personnalités choisies sont toutes francophones, ce n'est pas négligeable. La victoire est moins nette pour Angela Merkel, qui dans son pays a froissé ses partenaires de coalition, sociaux-démocrates en tête, mais elle place tout de même, vous l'avez dit, une fidèle au poste le plus stratégique, poste que l'Allemagne n'avait plus occupé depuis 52 ans. Enfin, elle sauve la face vis-à-vis de sa famille politique européenne, le PPE, qui avait très vivement contester son pré-accord conclu en marge du sommet du G20.
Angélique, c'est aussi une méthode qui a réussi hier.
Oui, une méthode plébiscitée par le président français. Lundi, rappelez-vous, il avait fustigé des réunions trop longues qui ne mènent à rien. Hier, eh bien, il a fait le tour de ses homologues avec une grande feuille de paperboard et des colonnes pour chaque combinaison possible. Angela Merkel a fait de même, mais avec de petits papiers, selon une source proche des négociations. Et on a attendu que tout le monde soit bien d'accord, au moins sur les deux premiers noms, pour entrer en plénière. Nous devons réformer nos méthodes, a répété hier soir le président français.
Paperboard de l'un, les petits papiers de l'autre, c'est bien noté. Deux femmes donc à deux postes clés en Europe. Réaction de Manon Aubry, qui était tête de liste La France Insoumise aux Européennes. C'est toujours une bonne nouvelle quand il y a des femmes à des postes de pouvoir. Mais la question c'est, pourquoi faire ? Ce sont deux femmes de droite, deux femmes tenantes d'un libéralisme. La domination allemande persiste, puisqu'on a aujourd'hui une Allemande à la tête de la Commission Européenne. Voilà ce que dit Manon Aubry. Rappelons les deux autres nominations hier. Un libéral, le Belge Charles Michel, président du Conseil Européen, la réunion des chefs d'État et de gouvernement, et puis un Espagnol, le socialiste Josep Borrell, ministre, entre guillemets, des Affaires étrangères en Europe. Et à l'instant, c'est le socialiste italien David Sassoli qui est élu président du Parlement européen pour un mandat de 2 ans et demi. Le Parlement, nous y allons parce que Ursula von der Leyen a un obstacle encore à passer avant d'être présidente de la Commission. Et ce n'est pas une simple formalité, elle doit recevoir l'aval du Parlement de Strasbourg. Vote la semaine du 15 juillet. Pour être confirmé, il lui faut l'appui de la droite européenne, des centristes et libéraux, ça devrait être le cas, et d'une bonne partie des sociaux-démocrates, ça n'est pas tout à fait gagné. Écoutez la députée socialiste française Sylvie Guillaume au micro de Louise Baudet.
On a quand même vraiment l'impression que voilà, le deal il est vraiment fait à l'extérieur, qu'on nous fait bien comprendre qu'il est fait à l'extérieur et qu'il n'y a plus qu'une validation. Et ça, je pense que ça ne devrait pas passer facilement. On aura un vote de confirmation ou pas, d'ailleurs, de cette candidate à la présidence de la Commission dans une quinzaine de jours. Dans l'intervalle, je pense que ça va beaucoup chauffer dans les groupes et qu'il y a des choses qui vont être exprimées de façon assez claire. On a eu déjà quelques informations assez inquiétantes sur la personnalité, sur l'action politique, sur la réussite de cette ministre allemande dans son gouvernement, de la part de nos membres allemands. Donc voilà, les questions vont être posées sur les compétences. Est-ce que, voilà, les questions de savoir si Mme Merkel se débarrasse de Mme von der Leyen à la Commission européenne. Enfin voilà, toutes ces questions qui me semblent importantes à poser dans l'intervalle et qui ne doivent pas rendre mécanique, de mon point de vue, le fait que nous validons au Parlement cette candidature.
Sylvie Guillaume avec Louise Baudet, et donc je vous confirme cette nomination, cette élection, celle du socialiste italien David Sassoli à la présidence de ce Parlement de Strasbourg.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvy.
Dans une semaine, en principe, nous saurons qui est le candidat En Marche au municipal à Paris. La commission d'investiture de LREM se sera prononcée. Il y a au moins 6 candidats, 3 favoris que vous avez pu entendre sur les ondes de France Inter en ce début d'été. Benjamin Griveaux et Mounir Majoubi, la semaine et le week-end dernier. Et dans ce journal, Cédric Villani. Bonjour Cédric Villani.
Bonjour.
Vous êtes en meeting demain au Théâtre du Gymnase à Paris, dernier jour de campagne interne, et vous dites « Je veux être le premier maire écologiste de Paris, la première mesure du maire écologiste Cédric Villani, ce serait quoi ?»
Quand on dit une première mesure, il ne faut pas croire. Il n'y a jamais une baguette de magique, quelle qu'elle soit,
qui résout tout. Voilà.
Mais en tout cas, parmi les tout premiers problèmes auxquels il faudra s'attaquer, il y a bien sûr les outils qui permettront de refluidifier la circulation dans la capitale et de faire en sorte qu'on n'oppose plus l'écologie et la voiture. On a souvent cette idée, on a eu cette idée dans la municipalité précédente, que la mise en place de l'écologie, ça se faisait à marche forcée, en tapant sur les usagers. Ouais. Et on a besoin de trouver les bons outils qui feront les choses en douceur. J'étais il y a quelques jours, ça fait partie de la préparation du benchmark international, j'étais il y a quelques jours en grande discussion avec un des ingénieurs qui à Moscou ont travaillé sur la mise en place des bons outils techniques, technologiques à Moscou.
Et quelle piste il y a à Moscou, quelle piste vous y avez trouvé ?
Voilà, en faisant les choses bien, avec le bon usage de la donnée, on a pu à la fois améliorer la fluidité et augmenter les espaces verts.
Le bon usage de la donnée, ça veut dire juste en étant attentif aux pics de circulation et à les organiser, par exemple.
C'est bien plus que cela. C'est bien plus que cela. Et maintenant, la ville connectée d'aujourd'hui, c'est une ville dans laquelle on a tous les capteurs qu'il faut pour prendre les données. Il va s'agir de mesurer les flux de voitures, le vent, la pollution, les pics de chaleur, etc. Et de faire un modèle qui vous permet de prédire. Voilà ce qui va se passer si on fait telle transformation. Voilà ce qui va se passer si on change les choses ainsi. Il s'agit d'aménager la ville, non pas au doigt mouillé, non pas en se guidant seulement sur l'idéologie, mais aussi avec le soutien de l'analyse rationnelle.
Ça veut dire que l'idée, Cédric Villani, c'est pas uniquement de supprimer des voitures dans Paris, que c'est pas forcément la clé.
Il s'agit, à la fin des fins, on a besoin, de toute façon, dans la décennie qui vient, de faire une transition de la mobilité. Une transition complète dans laquelle on passera à une mobilité propre, ça veut dire des véhicules électriques ou des véhicules hydrogènes. Une mobilité qui sera partagée, si vous ne partagez pas, vous n'arrivez pas à décongestionner. Et une mobilité qui sera aussi dans laquelle il y aura une part d'automatisation et peut-être à l'échelle de 10 ans, peut-être davantage, peut-être moins, des véhicules autonomes
qui changeront la donne. Donc ça passe en partie par des mesures de contrainte, malgré tout.
Tout est une mesure, un bon dosage entre contrainte et incitation, et tout ce qu'on peut faire dans l'incitation est avantageux. Si on vous dit, avant de vous forcer à vous débarrasser de votre véhicule, si on vous dit, voilà, les bons parkings, la bonne intermodalité, les bons outils qui vous permettent de vous déplacer moins cher et de façon moins pesante, eh bien, vous allez y aller de vous-même. Et c'est là qu'il faut être tout dans ce dosage.
Le périphérique Gaspard Ganzer veut le fermer et le remplacer par des espaces verts. Anne Hidalgo veut l'aménager et pourquoi pas un jour ou l'autre le fermer. Que dites-vous ?
Je dis que le périphérique est un instrument qu'il faut considérer non pas comme juste appartenant aux Parisiens, mais un instrument qui participe à la fluidité de l'ensemble du trafic d'Île-de-France.
Donc on le ferme pas parce qu'il sert aussi aux banlieusards.
Il sert aussi aux banlieusards, bien sûr. C'est une partie très importante des trajets de banlieue à banlieue. La décision récente qui a été annoncée de limiter la vitesse 70 à 50 km/h est une décision que je ne m'explique pas. Quand vous lisez le rapport assez complet qui a été instruit pour la mairie et que vous regardez les opinions des experts, en particulier pour la pollution, ils sont plutôt pour un maintien à 70 km/h, qui est l'optimum en termes de pollution. C'est un sujet aussi sur lequel, et c'est bien indiqué dans le rapport d'ailleurs, il n'y a pas assez de modèles prédictifs, pas assez d'analyses. Et vous parliez tout à l'heure de ma volonté, oui, d'être un maire écologiste à Paris, le premier à vraiment agir pour transformer la ville. Je fais partie de ceux qui considèrent que l'écologie, ça s'appuie par des outils rationnels. On va appeler ça éco-progressiste. On croit au progrès, on croit à l'usage de toutes les ressources de la science et de la technologie pour mettre en œuvre un projet écologiste.
Et j'ai bien compris que l'écologie au doigt mouillé, c'était en partie pour Anne Hidalgo. On interdit ou pas les trottinettes en libre-service ?
On n'interdit pas les trottinettes en libre-service parce qu'elles vont faire partie de l'équation demain de la mobilité. Dans le futur, bien sûr, il faut arriver, ça va être l'un des grands enjeux de du partage de la chaussée, arriver à bien séparer les flux de voitures d'un côté, les flux des véhicules personnels de l'autre, j'entends parler les trottinettes, les vélos ou d'autres modes encore.
Les monoroues et compagnie.
Les monoroues et compagnie, absolument. Ouais. Et on a besoin de faire des expérimentations aussi là-dessus. Il y a une innovation importante. Les trottinettes qui viendront dans 2 ans ne sont pas les mêmes que celles qui sont aujourd'hui, qui elles-mêmes sont différentes de celles d'il y a 2 ans. On voit d'ailleurs qu'il y a une sélection qui est en train de se faire entre les opérateurs qui est très importante. Alors bien sûr, il faut encadrer, parce qu'on ne veut pas des trottinettes qui traînent n'importe où, qui gênent le passage, qui rendent la vie impossible aux non-voyants, aux personnes à mobilité réduite, mais on n'interdit pas.
Convainquez-moi que les jeux ne sont pas faits au sein de La République En Marche, Cédric Vianney, que Benjamin Griveaux n'a pas déjà gagné. Vous allez me dire, non, ce n'est pas le cas. Convainquez-moi là-dessus, trouvez-moi l'argument.
Vous avez vu les sondages qui sont passés, les derniers sondages
qui vous donnent à égalité.
Qui nous donnent à égalité. Et vous avez vu aussi, il ne nous a pas échappé sans doute que avec une notoriété qui n'est pas la plus importante et de bons traits d'image, j'ai certainement de la réserve. Et que ça peut donner une indication, j'essaie d'être tout objectif, une indication que j'ai une marge de progression qui est importante. Une commission d'investiture, c'est fait pour désigner le candidat qui a le plus de chances de l'emporter.
Sauf que c'est Emmanuel Macron qui décide à la fin, non ?
C'est pas au travail, c'est pas le boulot du président que de désigner. Évidemment que je serai loyal à Emmanuel Macron, sans qui je ne serais pas entré en politique nationale. Mon travail n'est pas de me demander de lire dans les cerveaux ou dans les pensées, c'est tel ou tel qui prend la décision, mais là de me concentrer pour avoir le plus de chances de l'emporter. Et c'est ma conviction, celui ou celle qui gagnera sera celui ou celle qui aura démontré qu'il a le plus de chances de l'emporter dans la campagne.
Demain, meeting au théâtre du Gymnase à Paris. Merci Cédric Villani.
Merci beaucoup à vous.
À propos de Paris, 2 mois et demi après l'incendie de Notre-Dame, intéressons-nous à ceci. Là, ce qu'on entend là, c'est la maîtrise de Notre-Dame. 160 chanteurs, 35 professeurs, une école de chant, des concerts dans la cathédrale Notre-Dame une fois par semaine et 1000 messes chaque année. Et la maîtrise souffre après l'incendie, elle aussi. Elle ne peut plus chanter, évidemment, à Notre-Dame. Elle perd aussi des locaux au sous-sol, de répétition. Et elle se retrouve en difficulté financière. Écoutez son directeur, qui est également chef de chœur principal, il s'appelle Henri Chalet. Il appelle aux dons. Le besoin est estimé à 500 000 euros par an jusqu'à la réouverture de la cathédrale.
La première chose, c'est qu'on a perdu un lieu. On a aussi perdu des instruments, puisqu'on a perdu un piano à queue qui était dans les sous-sols. On a perdu nos aubes, on a perdu des partitions. À cela s'ajoutent aussi des problèmes financiers, parce que nous sommes subventionnés par l'État, par la ville de Paris, par le diocèse et la cathédrale. Et évidemment, la cathédrale, n'ayant plus de ressources, ne peut plus nous subventionner. Et l'activité des concerts permettait justement le financement aussi des professeurs, etc. Et donc, cette baisse de billetterie nous met un petit peu en défaut. Nous avons 35 professeurs. Nous avons aussi 12 administratifs. On doit pouvoir continuer à vivre, parce que si on arrête de chanter et qu'on recommence dans 5 ans quand la cathédrale réouvrira, on ne saura plus le faire. Il y a eu un énorme engouement du monde entier pour cette pauvre cathédrale qui s'effondrait, mais tous les dons sont a priori attribués à la restauration des pierres. Et il ne faut pas oublier que la cathédrale est vivante et qu'il y a un patrimoine musical. La naissance de la polyphonie, du rythme, tout ça a eu lieu à Notre-Dame de Paris. Nous avons une histoire à faire tenir, une histoire à continuer surtout.
Est-ce que vous entendez, grâce à Rémi Brancato, c'est la dernière polyphonie chantée à Notre-Dame la veille de l'incendie lors de la messe des rameaux. Allez, restons dans le ciel. Google va-t-il gagner son pari de connecter à Internet des millions d'habitants de régions isolées grâce à un réseau de ballons? La firme américaine va tester dans les prochaines semaines son projet Loon dans le ciel kényan. Et Loïc Piala, la technologie n'a pas encore convaincu tous les opérateurs qu'elle est viable.
Google a déjà testé avec succès son projet Loon au Pérou après un tremblement de terre et à Porto Rico après l'ouragan Maria. Mais cette nouvelle étape doit montrer que le marché pour ces ballons gonflables dépasse les situations d'urgence. En théorie, l'opérateur Telkom Kenya, le troisième du pays, pourra connecter au réseau 4G des villages de montagne, là où l'installation d'antennes relais coûte trop cher. Chaque ballon, gonflé à l'hélium et flottant dans la stratosphère, assurerait une couverture Internet sur 5000 km². Mais les batteries fonctionnent à l'énergie solaire et ne marcheront donc pas dans toutes les régions du globe. La connexion peut être perdue en cas de vent trop violent et les ballons coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros alors qu'ils doivent être remplacés tous les 5 mois. Si le prix et la fiabilité du système finissent tout de même par convaincre les opérateurs, Google sera doublement gagnant. D'abord, le géant de la Silicon Valley diversifiera ses sources de revenus. Ensuite, il profitera des nouvelles recettes publicitaires générées par l'arrivée de millions d'internautes sur la toile. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
On parlait du bombardement sur ce centre de détention de Libye tout à l'heure avec Christian Chesneau. À l'instant, la France condamne cette frappe contre le centre de migrants via le Quai d'Orsay. La question du prix des traitements médicaux les plus précieux revient dans le débat. De nouveaux traitements anti-cancer viennent d'arriver sur le marché. Ils servent à soigner les cancers du sang, les leucémies par exemple. On prélève les défenses immunitaires du patient, on les reprogramme génétiquement pour qu'elles attaquent les cellules cancéreuses et on les réintroduit dans l'organisme. Traitement en une fois, proposé à ce stade autour de 320-350 000 euros. On en est à la phase de négociation du prix entre le laboratoire et les autorités françaises. Le prix des médicaments, c'est un des sujets de combat de Médecins du Monde. Et dans ce cas précis, Véronique Julia, l'organisation dénonce des prix injustifiés.
C'est vrai qu'on ne parle pas ici de n'importe quel médicament. Il s'agit bel et bien de ce qu'on appelle une innovation de rupture. Les deux traitements en question, le Kymriah du laboratoire Novartis et le Yescarta du laboratoire Gilead, ces deux traitements constituent une petite révolution pour soigner les cancers du sang. C'est la technologie dite des CAR-T-cells. Ils permettent, ces médicaments, de faire entrer en rémission des patients qui étaient en rechute et en échec thérapeutique. Mais le prix exorbitant proposé pour l'instant est inacceptable, dit Médecins du Monde, pour deux raisons. D'abord, à ce prix-là, ce sera insoutenable financièrement et tous les patients ne pourront pas en bénéficier. Par ailleurs, le prix, d'après Médecins du Monde, ne reflète pas du tout les coûts réels supportés par les laboratoires en recherche et développement. Théo Brigand gère la question du prix des médicaments à Médecins du Monde.
Il faut voir que la recherche et développement sur le Kymriah vient aussi largement de la recherche publique aux États-Unis qui a été financée par les contribuables. Et ce qu'on paye finalement, c'est plus les rachats et les opérations financières. C'est dans un rapport de l'OMS qui a été publié à l'automne dernier que justement il montre que les prix reflètent aujourd'hui plus les objectifs financiers des firmes que les investissements réels en recherche et développement. L'inventeur des traitements de CAR-T Novartis, le docteur Carl June, il estime que le coût de production du médicament par personne est de seulement 20 000 euros.
Pour l'instant, en France, la négociation sur le prix est en cours. Il y a deux ans, déjà Médecins du Monde s'était battu de la même façon pour exiger la baisse du prix du Sofosbuvir, un médicament contre l'hépatite C, proposé à l'époque à 41 000 euros. Il est désormais distribué en France autour de 20 000 euros.
Édouard Philippe, en Corse, cet après-midi, y a-t-il un dialogue possible avec les élus nationalistes? Les deux principaux Talamoni et Simeoni avaient refusé de rencontrer Emmanuel Macron lors du grand débat national. Qu'en sera-t-il avec Édouard Philippe? Écoutez Jean-Guy Talamoni, le président de l'Assemblée de Corse, chez nos confrères de France Info.
S'il vient effectivement pour ouvrir un dialogue, ce que nous appelons de nos voeux depuis maintenant fort longtemps, et bien entendu, il est le bienvenu. Maintenant, si c'est pour répéter inlassablement les mêmes choses et ne pas prendre en compte le vote des Corses en décembre 2017, un vote à la majorité absolue, alors je crois que ce sera à ce moment-là une nouvelle visite pour rien. Mais en ce qui nous concerne, nous abordons cette visite sans a priori. Nous avons un projet global qui, c'est vrai, comporte une évolution institutionnelle, ce qu'on appelle un peu partout en Europe l'autonomie, ce qui est d'ailleurs le droit commun des îles d'Europe et de Méditerranée. Nous allons également lui parler de la question de la langue corse, nous allons lui parler de la question du foncier, nous allons également lui parler de fiscalité, de développement économique, nous allons lui parler enfin de la situation des prisonniers politiques. Nous pensons que la raison va finir par triompher et qu'un dialogue va s'établir entre la Corse et Paris, c'est en tout cas ce que nous souhaitons.
Jean-Guy Talamoni avec Marc Fauvel et Renaud Dely. Ce matin, une perquisition chez Renault ce matin, perquisition au siège de la firme à Boulogne-Billancourt. C'est dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Carlos Ghosn. Et puis les fuites au baccalauréat, là aussi enquête en cours. 6 candidats de plus ont été placés en garde à vue hier soir et ce matin à Marseille et Paris. Cela fait 18 lycéens interrogés au total. Qui pour affronter les ogres américaines en finale de la Coupe du Monde féminine de football? Ce soir, 21h, toujours à Lyon, seconde demi-finale après la victoire des USA face à l'Angleterre. Pays-Bas, Suède, Cédric Guillou, vous êtes en direct de la capitale mondiale du foot féminin, Lyon. Alors qui va gagner ce soir? Autant les Américaines étaient favorites face à l'Angleterre, autant il est difficile de dégager une équipe favorite ce soir, hein.
Oui, c'est vrai que ça s'annonce un peu plus ouvert, en effet, que la demi-finale d'hier soir avec une équipe des Pays-Bas qui est championne d'Europe en titre, mais qui atteint le dernier carré d'une Coupe du Monde pour la première fois de son histoire. Et puis en face, une équipe suédoise qui a brillé par le passé, qui a été finaliste en 2003, qui a connu une décennie délicate, mais qui, on s'en rend compte, revient bien sur le devant de la scène internationale. En témoigne la victoire des Suédoises en quart de finale contre les championnes olympiques allemandes. On va donc avoir ce soir, Bruno, des Néerlandaises en net progrès depuis 4 ans face à des Suédoises en plein renouveau. Ce sont deux nations également qui sont très proches l'une de l'autre, ouais, au classement FIFA. 8e place pour les Pays-Bas, 9e place pour la Suède. Et si je dois mouiller un petit peu, Bruno,
allez-y.
Léger avantage aux Néerlandaises qui seront soutenues par près de 20 000 personnes ce soir à Lyon. Et de plus, les Pays-Bas avaient éliminé la Suède 2-0 en quart de finale de l'Euro en 2007. C'était donc lors de la dernière confrontation d'importance entre les deux pays.
Coup d'envoi à 21h, merci Cédric Guillou. Chez les garçons, la Copa América, le Brésil est en finale. Victoire 2-0 face à l'Argentine hier. Le Brésil retrouvera en finale soit le Chili, soit le Pérou. Et puis en France, Nancy jouera bien finalement en Ligue 2 la saison prochaine. Le club lorrain avait été rétrogradé en national pour des raisons financières. Il avait fait appel et obtient gain de cause. Enfin, les premiers résultats de la journée à Wimbledon. Victoria Azarenka se qualifie pour le 3e tour. Bonjour Corinne Pélissier.
Bonjour.
Avec vous le conseil cinéma du mercredi, une plongée dans la Chine contemporaine. So Long My Son du réalisateur Wang Xiaoshuai. C'est une grande fresque familiale sur le thème du deuil.
Alors la thématique n'est pas très joyeuse, hein, je vous l'accorde à l'approche des vacances, mais vous ne pourrez pas regretter les 3 heures que vous allez passer avec les deux comédiens qui portent ce film. Yong Mei et Wang Qingshun, tous les deux récompensés d'un ours d'argent à Berlin et qui incarnent ce couple que l'on va suivre sur plusieurs décennies. Des années 80 jusqu'à aujourd'hui, à la fois l'histoire d'un deuil, ils ont perdu leur enfant dans un accident, et celle d'un pays qui est en train de changer, la Chine, qui va progressivement s'ouvrir à l'économie de marché.
La Chine qui est aussi le pays de l'enfant unique pendant toute cette période, avec des conséquences très dures pour les familles, c'est l'un des enjeux du film.
Voilà exactement, comment faire son deuil, comment s'en sortir quand c'est le groupe qui prédomine et que les autres vous surveillent en permanence, à grand renfort de propagande dans les usines d'avortement ou même de stérilisation forcée. Cette politique de l'enfant unique a duré en Chine jusqu'en 2015. Et tout au long de son film, Wang Xiaoshuai nous en montre bien les ravages et toutes les conséquences à travers de nombreux flashbacks, à la fois des souvenirs difficiles et aussi des moments heureux. Et
évidemment, le chagrin de ses parents qui n'ont pu avoir qu'un seul enfant. Histoire magnifique, dites-vous, immensément triste, mais qui dépeint avec beaucoup de souffle les rapports entre les individus.
Le poids des règles, celui aussi des traditions, la mutation de cette Chine contemporaine à l'issue de cette grande fresque où les immeubles de luxe ont remplacé par exemple les cités ouvrières, mais où les blessures demeurent.
So Long My Son, Wang Xiaoshuai, c'est au cinéma ce mercredi et c'est bien souvent un gage de qualité. C'est un film France Inter.
La météo avec les volets roulants Velux, la protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France. À retrouver sur velux.fr.
Jean-Pierre Hameau.
Prévoyez un après-midi ensoleillé au nord de la Loire jusqu'au Grand Est. L'ensoleillement sera généreux aussi de la région Poitou-Charentes à la Gironde, mais aussi de la basse vallée du Rhône à la Côte d'Azur. Partout ailleurs, le ciel sera partagé cet après-midi entre éclaircies et cumulus. Des averses orageuses se produiront par endroits et en particulier du côté de la Bourgogne. Et attention, des orages plus forts vont se développer par évolution diurne d'ici la fin de la journée, du Massif central au Massif alpin. Et une fois de plus, ces orages seront localement forts. Les températures seront un peu fraîches pour la saison dans le nord-ouest et voisine de 21 ou 22 degrés avec un vent de nord-est soutenu. La sensation de fraîcheur sera amplifiée. Comptez 23 à 29 au nord de la Loire. Elles seront chaudes dans les autres régions, y compris entre 30 et 36 degrés.